Et bonjour et bienvenue. Voilà, si vous nous rejoignez sur l'antenne de Doradio, Doradio, la radio des Hautes-Garonne, et on est ravis, bien sûr, avec toute l'équipe, de vous retrouver, comme chaque jour du lundi au vendredi, pour notre journal en direct à midi, rediffusé à 15h et 18h. Voilà, on rappellera juste, bien sûr, hein, voilà, comment nous suivre, hein, 91.3, le 91.3 FM dans quasiment tout le département, la Gironde, avec des zones d'ombre. Voilà, ça c'est inhérent bien sûr à la magie des ondes. Vous pouvez nous suivre également via notre site doradio.fr. Vous pouvez accéder à plein d'infos bien sûr, et surtout la possibilité de venir entendre, télécharger toutes nos émissions, service qui plus est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez revenir sur une interview, voilà, un invité, une émission spéciale. Et troisième vecteur de communication, c'est le DAB+, la radio numérique terrestre. Voilà, si vous êtes en métropole bordelaise, équipé du poste récepteur adéquat. Ça tombe sous le sens, comme je précise régulièrement, mais c'est toujours bien de le préciser. Allez, le sommaire de ce journal et du magazine à suivre en ce vendredi 30 janvier. C'est Eliott qui va nous décliner quelques brèves d'infos. Voilà, dans le cadre d'une action intitulée « Quartier connecté, nos vies, nos voix ». Voilà, aujourd'hui, on va écouter un entretien réalisé par Chloé d'Abdella Abchan, voilà, qui est agent de développement à l'association Unir, qui gère les centres sociaux de la ville de Florac. Si vous étiez à l'écoute mercredi dans le cadre de cette émission spéciale Concert du cœur de Cayrac le 7 février, voilà, on n'avait pas pu diffuser l'entretien réalisé par notre confrère, on le salue aussi, Alexandre Berthelin, à qui FM, et on n'avait pas pu diffuser donc cette interview de Aurélie Chambon, qui est présidente de l'association Kids Sans Frontières, où elle explique bien sûr les missions, les objectifs de cette association. Et ce concert du 7 février sera réalisé en soutien bien pour cette belle association. Donc chose promise, chose due, on écoutera cet entretien tout à l'heure, et comme on restera en lien avec cet événement, on écoutera le groupe Mozovan, voilà, qui nous interprétera le titre Les Cancres. Et soit avant ce titre, cette belle pause musicale, je vous déclinerai un petit agenda culturel. Voilà, on va voir au moment opportun. Et comme tous les vendredis, c'est le magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cessot. Et là, on reviendra sur l'émission de la semaine dernière. Hein. C'est ça le format. Normalement, tous les 15 jours, une nouvelle émission. Donc, chaque semaine, on retrouve toujours un sujet. Et là, Maître Paul Cessot va aborder une revue de jurisprudence. Jurisprudence, appliquons-nous en matière de droit du travail. Il va aborder quelques thématiques autour de la liberté d'expression, le harcèlement, et le harcèlement notamment. Voilà pour le journal, le sommaire du journal, voilà, que je remette les mots dans l'ordre, et du magazine thématique. Et notre journal est tout de suite ouvert par Eliott, qui va nous présenter quelques brèves d'infos. Bonjour Eliott.
Bonjour à toutes et à tous. La bande dessinée et la littérature jeunesse seront à l'honneur ce samedi 31 janvier sur la rive droite de Bordeaux. La librairie Le Passeur, située avenue Thiers, accueillera trois autrices et illustratrices, Séverine Vidal, Laura Giraud et Camille Garoche, pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces ouverte à tous. Cet événement s'inscrit dans les fêtes interconnectées de la bande dessinée, un mouvement né après l'annulation du Festival d'Angoulême 2026, dans un contexte de mobilisation du monde du 9e art. Une occasion pour le public de découvrir des œuvres engagées, jeunesse et graphiques, et d'échanger directement avec les autrices, de 15h30 à 18h. L'entrée sera libre. Bordeaux Village se met à l'heure de la montagne. Sur les quais de Bacalan, le site se transforme en décor d'après-ski, avec chalet en bois, ambiance confortable et animation gratuite. Au programme, dégustation de crêpes pour la chandeleur, chocolat chaud offert, atelier pour enfants et animation familiale, tous les après-midi de 15h30 à 18h. Des ateliers ludiques, des jeux autour du ski et même un décor de chalet pour se prendre en photo sont proposés jusqu'au 22 février. Une façon de profiter des vacances d'hiver à Bordeaux, sans quitter la ville et sans dépenser un seul euro. Pour la rive droite de Bordeaux, le quartier de la Bastide poursuit sa métamorphose. Né au 19e siècle avec la construction du pont de Pierre et de la gare d'Orléans, ce secteur connaît aujourd'hui un nouvel essor dans le cadre du projet urbain Bordeaux 2030. Ancien faubourg industriel et populaire, la Bastide devient peu à peu un quartier de centre-ville, mêlant patrimoine ancien, logements modernes et espaces verts. Le parc aux Angéliques, aménagé le long des quais, illustre cette reconquête de la Garonne par la nature. Autre symbole de ce renouveau, l'écoquartier Darwin, installé dans l'ancienne caserne Niel, aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus visités de Bordeaux. À quelques pas, la caserne des pompiers de la Benauge, classée au patrimoine du XXe siècle, s'est transformée en caserne B, un lieu culturel et festif, ouvert au public jusqu'en septembre 2026. Pendant les vacances scolaires, les médiathèques bordelaises proposent des ateliers créatifs pour les enfants. Les ateliers Bricolo invitent les jeunes à partir de 8 ans à imaginer, bricoler et créer à travers différentes techniques artistiques. Pop-up, gravure, flipbook ou encore land art sont au programme, avec l'objectif de développer la créativité et l'imaginaire. Deux rendez-vous sont prévus, le jeudi 12 février à la médiathèque de Jean Darrier, puis le 19 février à la médiathèque de Roland Barthès, de 15h30 à 17h. Les ateliers seront gratuits, mais l'inscription est obligatoire.
Voilà, merci Elliot. Et Elliot, regardez, on va vous garder juste quelques instants, mais rassurez-vous, tout va bien, c'est votre dernier jour de stage aujourd'hui. On va rappeler, vous êtes en école de journalisme.
Exactement.
Donc, en deux mots, deuxième année.
Deuxième année, encore plus de découvertes et qui me renforce dans l'idée d'être journaliste.
Et là, la suite, un petit peu de repos, ou je crois qu'on enclenche sur un autre stage.
J'enchaîne sur un autre stage complètement différent et j'espère tout aussi enrichissant que celui à Eau de Radio.
Voilà, c'était histoire de vous faire un petit clin d'œil, bien sûr, pas de piège, rassurez-vous, Elliot.
Merci à vous.
Voilà, au nom de toute l'équipe de Radio, on vous souhaite de belles choses à suivre. Et puis on fait un petit coucou à Aurélien, je ne sais pas s'il nous entend.
Si, il doit sûrement nous écouter, bon. Il est malade aujourd'hui.
Voilà, Aurélien, on t'envoie plein de, je ne sais pas quoi, de bonnes vibrations.
De bonnes vibrations, une bonne continuation. Et allez. On vous remercie pour nous avoir accueillis.
Allez, merci à tous les deux et puis voilà, on vous souhaite plein de belles choses. Allez, c'était important d'avoir toujours des petits moments comme ça. Après, on prévient pas à chaque fois les stagiaires, ça donne un petit moment de tension. Mais voilà, c'est histoire de vous remercier et de vous souhaiter de belles perspectives. Allez, on va revenir sur le cours de notre journal en ce vendredi 30 janvier. Voilà, si vous êtes des fidèles d'Eau Radio et si vous suivez les réseaux sociaux, là vous n'êtes pas sans savoir que demain, dans le cadre de cette action Quartier Connecté, nos vies, nos voix, on vous propose un rendez-vous à la M270, la Maison des Savoirs Partagés. Alors il y aura deux temps, entre 11h et 12h30, une émission en direct et simultanée depuis la M270, donc avec plusieurs acteurs engagés, issus de quartiers, pas forcément des QPV, les quartiers prioritaires de la rive droite, en tout cas des gens actifs. Voilà, certains ont déjà eu la parole, d'autres non, ben, c'est de valoriser cet engagement. Il y aura un deuxième temps avec un apéro déjeunatoire et musical. Et on remercie aussi Mostafa Harfi, un joueur de oud connu à l'international. Voilà, il a fait le conservatoire tant au Maroc et de beaux concerts des deux côtés de la Méditerranée et bien d'autres belles soirées. Et en lien avec ces quartiers connectés, on va écouter cet entretien réalisé par Chloé. Elle a échangé avec Adela Abchan dans le cadre de cette action, donc, et je rappelle, Adela, même si beaucoup d'infos vont être données lors de l'entretien que l'on va écouter, on va juste rappeler qu'il est agent de développement à l'association UNIR, voilà l'association qui gère les centres sociaux et culturels de la ville de Florac. On écoute.
Ouais, je m'appelle Abdela Abchan, je suis agent de développement de l'association UNIR. Et UNIR, c'est une structure qui gère un centre social et un espace de vie sociale sur la ville de Florac. Et par ailleurs, je m'occupe aussi de Eau Radio à côté à ce nom.
Depuis combien de temps êtes-vous engagé dans la vie associative de votre commune?
Oula, on va dire au moins 35 ans au moins, oui. Sur Florac, oui.
Combien de temps y consacrez-vous par semaine?
Normalement, je suis, je regarde pas, mais il faut compter un temps plein, facile, oui.
Quelle a été la raison de votre engagement?
L'engagement, moi j'avais toujours, depuis tout jeune, une fibre sociale, pas au sens du cas social, mais de vivre en société, quoi. Et j'utilise beaucoup l'outil, surtout culturel et événementiel, pour permettre un peu d'améliorer cette communication sociale entre les habitants, entre les gens, ce qu'on appelle dans le langage un peu pro, le lien social, quoi.
Quelle est la mission ou le projet dont vous êtes le plus fier?
Le plus fier, c'est, je ne sais pas, d'avoir sorti il y a des années de ça, des jeunes à la neige, qu'ils n'avaient jamais vu de neige auparavant, de les amener à l'étranger, et en Espagne, au Maroc, faire des tours au niveau international. des projets aussi qui naissent, qui sont locaux, comme là en ce moment, depuis 4 ans à peu près, on est sur une création artistique théâtrale avec le collectif Entraide et Solidarité. On a joué une pièce, la Cité des Possibles, ici à Talence, à Villeneuve-d'Ornon, à Colmar, à Paris. Et c'est vraiment les habitants là, qui sont sortis de leur tour et qui vont s'exposer sur scène ailleurs, quoi. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est parce qu'on voit de suite le résultat sur ces années-là, en termes de confiance en soi, de maîtrise de la parole, du langage, du texte, et du plaisir autour de tout ça, quoi.
Qu'est-ce que votre engagement a changé de votre quotidien ?
Oh, c'est très compliqué, parce que quand on est dans ce milieu-là, milieu du social ou de ce qu'on appelle le travail social ou socioculturel, et il est très difficile de faire la part de sa vie privée et professionnelle, parce que c'est vivre en société, quoi. Quand je dis bon, je dis pas, ouais, ça y est, je vais pas plus penser. Mais des fois, j'y pense chez moi, la nuit, le soir, j'écris des trucs. Ça a changé, ça m'a apporté beaucoup, bien sûr, de connaissances, d'expériences, de partage d'expériences. Même certains sont devenus amicales avec certaines personnes. Et ça, c'est pas rien. C'est une mémoire longue, mais qui concerne la jeunesse, qui concerne les adultes. Là, en ce moment, je travaille pas mal avec les seniors, les vieux, sur des voyages. Une semaine entière à organiser des séjours, donc c'est plein de choses qu'on partage, oui, ça m'apporte, et voilà.
Comment imaginez-vous l'évolution de votre engagement citoyen dans les prochaines années ?
Un peu difficile, tout en sachant, bon, le bénévolat est important en France, et il repose surtout sur des retraités beaucoup. Les jeunes aussi veulent être mobilisés, mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'au niveau du pouvoir public, il n'y a pas de soutien derrière ça. Quand on voit les associations qui réduisent leurs activités, voire disparaître, leurs équipes disparaître, etc. Et c'est vraiment un ciment central au niveau de la cohésion du pays et des différents quartiers, mais des villes ou les zones rurales, surtout les rurales notamment, qui en souffrent beaucoup vis-à-vis de la disparition des services publics. Et là, oui, effectivement, l'engagement a besoin vraiment d'un soutien du politique.
Quel est le projet que vous rêveriez de lancer ?
Alors, je pensais à un clip musical avec les habitants. On a fait du théâtre, on a fait un film, et là, un clip, ça serait pas mal. Ouais.
Et enfin, que diriez-vous pour inciter quelqu'un à s'engager comme vous ?
Allez-y, et faites mieux.
Voilà, merci à Chloé hein, qui a réalisé cet entretien, et à Abdella Abchan, voilà, agent de développement associatif au sein de l'association UNIR. Je rappelle qu'il gère les deux centres sociaux, et j'en remets juste une petite couche. Donc voilà, vous êtes cordialement invité, bien sûr, demain, si vous voulez partager avec des responsables associatifs, mais pas que, engagés sur la rue droite. Voilà, il y aura une émission de 11h et 12h30, ou alors restez bien calés, bien sûr, chez vous, où que vous soyez, voilà, via tous les réseaux pour nous suivre, et il y aura pour continuer bien sûr de manière très bienveillante et en toute amitié un apéro déjeuner qui s'en suivra avec Mostafa Arfi. Allez, on va passer à un autre sujet. On est toujours en direct, c'est notre journal de ce vendredi 30 janvier sur Odo Radio. Souvenez-vous, mercredi on a pu rencontrer des acteurs engagés, hein. Pas forcément sur la rue droite bordelaise, mais on n'est pas du tout sectaire, hein. C'était pour mettre en avant un concert solidaire qui va se déroulé le 7 février prochain à Cayrac dans le Médoc, avec plein de groupes émergents que l'on retrouve régulièrement sur Odo Radio. Et là, on n'avait pas pu, hein, je le rappelle, tout diffuser, tellement il y avait la richesse dans les interventions, sessions live, diffusion de chansons de groupes qui sont prévus sur le plateau artistique du 7 février prochain. Et là, on n'avait pas pu donc diffuser cette interview d'Aurélie Chambon, présidente de l'association Kids Sans Frontières, voilà, pour qui ce concert est réalisé. Et du coup, voilà, on l'avait promis, on va le retrouver tout de suite. Je refais un petit clin d'œil à Alexandre Berthelin qui a réalisé cet entretien. Voilà, c'est notre confrère d'Aki FM. Allez, tout de suite, Aurélie Chambon, présidente de Kids Sans Frontières.
À l'assaut des assauts, chaque semaine, découvrez une association du Médoc sur Aki FM.
Le concert du cœur de ce samedi 7 février à Cayrac sera au profit de Kids Sans Frontières. Cette semaine, nous parlons de l'association et de l'événement. Nous sommes tout d'abord avec Aurélie Chambon, présidente de KSF, pour nous en parler. Bonjour Aurélie.
Bonjour Alexandre.
Avant de parler du concert de ce samedi, est-ce que vous pouvez nous présenter KSF et depuis quand existe cette association ?
Oui, bien sûr. Donc, Kids Sans Frontières est une association qui est basée à Coutras, en Gironde, et elle a été créée en 2020, lors de la période Covid. C'est une association qui a vu le jour suite à des voyages personnels au Sénégal et où on a pu constater de nombreux besoins. Donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas.
Et quelles sont vos missions au sein de l'association ?
Alors l'association, elle est sur plusieurs volets. Le volet de l'éducation, le volet santé-écologie et le dernier volet qui est un volet qui est plus approprié pour aider les populations les plus vulnérables.
Et du coup, en termes concrets, quelles missions avez-vous déjà pu mener ?
Certains membres de l'association, sur le bénévolat bien évidemment et aux frais de chaque membre qui participe à la mission, on organise donc des déplacements sur le terrain 2 fois par an et lors de ces missions, on va apporter une aide aux écoles, un soutien à différentes écoles. Actuellement, on est sur 7 écoles depuis 2020 et là, nos opérations sont plutôt de réhabiliter des écoles, donc ça va être apporter l'électricité, réparer les pupitres, mettre les sols plats, carreler les sols des classes, construction de puits pour pouvoir faire un jardin potager, par exemple, dans une école. Et on soutient également des postes de santé en amenant du matériel et des médicaments quand c'est possible.
Et ces écoles, elles sont toutes situées au Sénégal ou il y a d'autres pays qui sont dans ces missions ?
À ce jour, on œuvre au Sénégal. Pourquoi ? Bah parce que on a commencé des chantiers, on s'est engagé. Et avant d'aller voir ailleurs, bah il faut finir ce qu'on a engagé, bien évidemment.
Et donc des projets lancés au Sénégal, mais également des projets en France, notamment sur l'écologie.
Oui, on essaie d'être également présent sur le territoire avec des projets. Les premiers projets qu'on a pu lancer dans le Libournais, ça va être plutôt des projets qui vont être basés sur l'écologie. Donc, on a des partenariats avec des écoles, des mairies, dans lesquelles on va collecter des stylos qu'on va renvoyer à TerraCycle. C'est un organisme qui transforme les stylos usagés en mobilier urbain, par exemple. Ou alors, on participe aux journées mondiales de nettoyage aussi. On espère pouvoir mener des projets futurs avec des structures et des jeunes du territoire. C'est en cours, donc c'est à suivre.
Là, si on se tourne vers l'avenir, quel projet avez-vous pour l'association ?
On a de nombreux projets en cours et à venir, ce qui nous réjouit énormément. On a un projet d'eau et d'assainissement en Casamance, très gros projet pour nous, c'est notre premier gros projet. D'ailleurs, on a été lauréat de l'incubateur Odyssée de la Socoopération. La Socoopération, c'est un organisme qui regroupe beaucoup d'acteurs du territoire et qui nous assiste dans le montage de ce projet et les demandes de financement. Donc ça, c'est un très gros projet qui va concerner 7 écoles. Et donc, 7 écoles et pas moins de 1800 élèves. On a également un projet qui tourne autour d'une ferme agroécologique. C'est une ferme qui va prendre jour, principalement dans tout ce qui va être maraîchage, mais avec l'ambition de créer un centre de formation pour former les jeunes et les femmes à l'agriculture et surtout à devenir autonomes avec de la transformation de fruits, de légumes, et pourquoi pas se développer aussi sur la saponification et plein d'autres choses.
D'accord, donc pas mal de gros projets à venir. J'imagine que pour faire ce type de mission, vous avez besoin de bénévoles. Quelle équipe actuellement fait partie de Kids Sans Frontières ?
À ce jour, on compte 42 membres au sein de Kids Sans Frontières. Donc, on est tous bénévoles. Il n'y a aucun salarié au sein de l'association. Et nous sommes représentés sur plusieurs départements en France, ainsi que la Suisse. Donc, on est dans le 47, le 40, le 74, 64. Des membres qui ont connu l'association, principalement par du bouche à oreille ou via les réseaux sociaux. Et de ce fait, on est un peu présent partout en France et c'est appréciable.
D'accord, donc différentes antennes à plusieurs endroits en France notamment. Et est-ce que justement vous cherchez d'autres bénévoles pour venir vous épauler ?
Alors on ne dit jamais non à des personnes qui sont sensibles à notre cause et qui ont envie de donner un coup de main. Bien évidemment que toute personne qui souhaitera rejoindre l'équipe Kids Sans Frontières sera la bienvenue. On a besoin de personnes de tout profil, avec des qualifications ou des formations très diverses qui peuvent apporter un plus à l'association. Donc il n'y a aucun souci, tout le monde peut rejoindre l'association.
On a parlé des missions de KSF, on a parlé des projets aussi à venir et des différentes antennes que l'on pouvait rejoindre si on était sensible à votre cause. Vous allez venir ce samedi à Cayrac pour le concert du cœur. Vous allez donc bénéficier des fonds récoltés lors de cet événement. À quoi vont servir ces bénéfices, si je puis dire ?
Tout d'abord, je voulais remercier José Garcia qui organise ce concert caritatif. Donc, c'est le cinquième concert qu'il organise au profit d'associations. Quand j'ai reçu son appel, j'étais ravie de voir qu'il avait été sensible à la cause de notre association, qu'il nous avait sélectionné, entre guillemets, pour pouvoir être bénéficiaire des profits générés lors de ce concert. Donc, merci José, merci beaucoup. Et donc, les fonds que l'on va récolter lors de ce concert caritatifs vont servir sur place au Sénégal au profit des enfants dans les écoles. Donc on va améliorer leurs conditions scolaires. Ça va être de la réhabilitation d'écoles, de salles de classe ou de la fourniture de matériel. On peut constater qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés mais qui malheureusement n'ont pas le nécessaire pour étudier correctement et également aussi des enseignants qui n'ont pas les manuels nécessaires pour donner leurs cours. Donc les fonds serviront exclusivement à l'amélioration des conditions scolaires des enfants au Sénégal.
Et donc, si on veut retrouver tout ce qu'on a pu se dire sur l'association et retrouver des informations supplémentaires sur vos différentes actions, où est-ce qu'on peut aller ?
Eh bien, écoutez, vous pouvez nous retrouver principalement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sous le nom de Kids Sans Frontières. Et on a un site internet aussi, toujours sous le même nom, Kids Sans Frontières, qui est mis à jour régulièrement et vous pourrez y retrouver toutes les missions qu'on a pu déjà organiser. Et d'ailleurs, en mars, notre prochaine mission, ce sera la 9e déjà, et vous pourrez trouver toutes ces informations sur le site.
Donc on donne rendez-vous également sur place, j'imagine, ce samedi à Cayrac aussi pour vous rencontrer. Vous y tiendrez un stand peut-être ?
Alors oui, on sera présent. Bien sûr, on invite tout le monde à nous rejoindre et être présent ce jour-ci parce que c'est une belle soirée qui s'annonce. Et effectivement, on sera là, on tiendra un stand, une buvette aussi qui sera au profit de Kids Sans Frontières. Et donc, on sera ravis de renseigner les personnes qui seront intéressées à propos de l'association.
Eh bien, merci beaucoup Aurélie d'être venue nous parler de Kids Sans Frontières.
Merci beaucoup.
Oula, ne déréglez pas vos pauses, bien sûr. Si vous avez entendu un petit jingle à KFM, voilà, c'est parce que, entre radios associatives, il y a des échanges comme cela d'entretiens, d'interviews. Donc, je remercie à nouveau Alexandre Berthelin d'AKFM, parmi les émissions qu'il anime, l'assaut des assos. Vous avez entendu le petit jingle au début. Voilà, vous avez pu entendre cette interview de Aurélie Chambon, présidente de Kids Sans Frontières. Et ça nous permet de garder ce lien. Voilà, on est partenaire de ce concert du cœur, 5e édition, samedi 7 février, salle des fêtes de Cayrac. Il y aura les groupes Jérôme Solaire, groupe JSG, le groupe Mozovan, mais qu'on va écouter d'ici quelques instants, Sweetrium, AZB, The Crazy Late Train, José and Friends. Voilà, je fais un petit coucou également à José. Voilà, le José et ses amis, c'est à la fois le musicien et l'organisateur de cette belle soirée, donc en soutien à Kids Sans Frontières, et parmi les groupes, donc Mozovan. Et on va écouter tout suite un extrait de leur dernière démo. Ça s'appelle Les Cancres et c'est Mozovan tout de suite sur Onde Radio.
Messieurs du fond du cours, vous qui savez par cœur les plus belles histoires, les aventures folles, quand vos esprits s'envolent loin des murs de l'école.
Ou qu'on appelle cancre, qui à l'appel manque, malade imaginaire. Je vous dédie cette heure que vous êtes les chantres de tous les libertaires. Des crayons et des gommes, des plumes et du papier pour toute arme de guerre. Luttiez déjà contre la société en rêvant de travers. Vous étiez déjà loin, si loin dans vos pensées des règles imposées. Et dans vos têtes vides flottait déjà au vent un air de liberté.
Mmh.
que l'instituteur vous expliquait la vie. Grimace et tatataire étaient votre faconde pour répondre à l'ennui.
Méfiez-vous cependant dans votre dissidence, car ceux du premier rang, si sages et si pédants, sont souvent des balances. Messieurs du fond du cours, j'imagine le parcours de vos années futures. Je vous devine acteur des mille aventures dont vous parliez naguère. Vous l'aviez bien saisi, la vie est bohémienne. Et le feu qui la porte jusqu'au bout de la nuit, personne ne l'enseigne. Et le feu qui la porte jusqu'au bout de la nuit, personne ne l'enseigne. Et le feu qui la porte jusqu'au bout de la nuit, personne ne l'enseigne.
Voilà, le groupe Mauzauvent et le titre Les Cancres, en rappelant que leur prochaine date de concert sera le 7 février prochain sur ce cinquième concert du chœur à la salle des fêtes de Cayrac. Là, je vois que le temps avance allègrement. Donc voilà, j'essaie de faire vite, mais vous donner quand même quelques indications d'événements prévus ce week-end, voilà, dans le cadre de notre agenda culturel. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le concert de The Avener ce soir au Rocher de Palmer à la salle 1200 qui affiche complet déjà depuis pas mal de temps. Vous aurez un concert sous hypnose, si si, avec Geoffrey Seco à la salle 650 du Rocher, là pour une soirée intitulée Au-delà. Et dans la troisième salle de concert du Rocher de Palmer, le salon de musique The Harlem Gospel Travelers voilà, vous attend avec trois voix et un même feu, nous précise-t-on. Vous aurez en ce vendredi soir, faudra faire des choix bien sûr, un cabaret d'improvisation à l'Oscillo Théâtroscope, ici Domaine du Lauré. C'est organisé par le Théâtralisé, voilà, nos voisins et amis. Et ce soir, dans leur théâtre, l'Oscillo Théâtroscope, eh bien, vous propose la troupe Même Pas Peur, c'est leur nom, pour 10 improvisateurs voilà, qui vont vous régaler. Nous précisons là également sur le communiqué. Apéro concert, souvenir balnéaire, c'est ce que vous propose la médiathèque de Saint-Louis de Montferrand avec Henri Caraguel. Il y a également ce week-end une exposition intitulée Planète Rap. Voilà, ce sont néanmoins les tout derniers jours. Voilà, c'est à la médiathèque de Saint-Louis de Montferrand. Vous aurez le premier concert de l'édition 2026, voilà, des animations, concerts proposés par la CDC, la communauté de communes Les Coteaux Bordelais. Donc, premier concert de l'année. Et ça sera à la salle Le Reflet de Tresse ce soir à 20h30 avec les Voix de la Mémoire. Dans le cadre du festival Pousse, vous aurez Yves Mwamba, voilà, au pôle culturel Évasion en Barès et La Grave pour un spectacle de danse tout public dès 9 ans. Ce samedi, bien sûr, on va rappeler Quartier Connecté. Vous êtes invité à l'M270 à Floirac. C'est organisé par Eau de Radio en partenariat avec la LIFS. Voilà, on soutient avec notamment la mission ville de la préfecture et ainsi que les villes de Bassens, Lormont, Senon, Floirac. Voilà, c'est en accès libre. Donc 11h30, émission directe avec des acteurs engagés et apéro déjeunatoire en suivant, qui plus est en musique avec Mostafa Harfi. Voilà, immense joueur de oud. Et en ce samedi, allez, j'essaye de faire vite, je vois le temps qui défile. Vous avez un repas des aînés au gymnase La Maraigue, mais là le public concerné bien sûr a été invité. C'est pas d'ordre privé, mais presque. Vous aurez également samedi des concerts au Rocher de Palmer. On revient au salon de musique avec Adèle et Robin, Cobalt ainsi que Daisy. Voilà, c'est de la fresh pop, hein, si je vais synthétiser. Le concert de L2B, voilà, prévu à la salle 1200, affiche là également complet. Et là, vous aurez un concert de soutien à l'association Neurogel en marche. Ce sera la salle 650 ce samedi. Et deux groupes bordelais, deux ambiances. Voilà, il y aura le groupe Wanna Sax et Otto, hein, qui est un groupe tribute hommage au groupe Toto. Même, voilà, on le voit dans les lettres, ça fait un anagramme. Et le but de la soirée, c'est de mobiliser en musique, voilà, pour soutenir cette belle cause qui est le soutien à l'association de recherche sur les liaisons de la moelle épinière. Vous aurez à l'espace des Deux Rives samedi ainsi que dimanche, donc samedi 20h et dimanche 15h, trois assos pour le Resto du Cœur. Donc si vous voulez soutenir les Restaurants du Cœur, vous avez deux représentations, voilà, de belles ambiances musicales avec notamment l'école municipale de danse de Lormont. Voilà, deux rendez-vous chaleureux et musicaux, même si la danse, voilà, c'est lié, n'est pas oublié. Et voilà, je vais arrêter là pour l'agenda, voilà, histoire d'essayer d'être dans le timing. Merci à Elliot à la régie technique. Voilà, je remercie Elliot et Aurélien, dont c'était pour les deux le dernier jour. Ils sont en école de journalisme à l'EFG en deuxième année. Voilà, ça a été les dernières brèves présentées aujourd'hui par Elliot. Donc on leur souhaite bon vent. Et tout de suite, on va retrouver ce magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cessot. Il revient notamment sur une revue de jurisprudence en matière de droit du travail, liberté d'expression et autres harcèlements. Voilà, défendez-vous et en suivant, on vous laissera avec les autres programmes d'Odo Radio, la radio des Hautes-Garonne.
Le magazine juridique et social, Défendez-vous, présenté par Maître Paul Cessot.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Audio Radio pour votre émission du vendredi midi, Défendez-vous. Et cette semaine, nous allons faire une petite revue de jurisprudence en matière de droit du travail, parce qu'il y a un moment qu'on n'a pas fait, et que c'est une matière qui peut bouger. Et sur des sujets qui sont relatifs à la liberté d'expression et au harcèlement, dans la mesure où ce sont des choses qui sont qui existent dans l'entreprise, dans le monde du travail, et face auxquelles les salariés peuvent parfois se trouver démunis ou en tout cas mal informés quant à leurs droits. À ce sujet, l'on rappelle que l'on peut toujours se faire conseiller, soit par un syndicat, soit par un avocat, même pendant le cours du contrat de travail, sans attendre la rupture, afin de savoir dans quelles conditions l'on évolue et comment, le cas échéant, se sortir au mieux d'une mauvaise passe, ou en tout cas gérer au mieux la situation dans laquelle on se trouve, et savoir si l'on a raison ou l'on a tort, ou si on se situe dans un entre-deux, difficile quelquefois à déterminer. Ce qui peut être le cas en matière de liberté d'expression, par exemple. Donc pour cette question, c'est l'occasion de rebondir sur trois arrêts rendus par la Cour de cassation à la même date, c'est-à-dire ce 14 janvier, il y a quelques jours, 14 janvier 2026, dans laquelle elle fit ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence, sur le raisonnement à tenir en matière de liberté d'expression du salarié et de licenciement. Alors, on sait déjà que dans l'entreprise, je l'ai rappelé dans différentes émissions, dans l'entreprise, le salarié jouit de l'ensemble de ses libertés, si ce n'est que l'on se trouve dans le cadre d'un contrat de travail et donc avec un certain nombre de restrictions. Dans les premiers articles, du Code du Travail, donc là en l'occurrence l'article 1121-1 du Code du Travail, précise que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Le texte est d'ailleurs intéressant en ce qu'il évoque cette question de la proportionnalité. Et la Cour de cassation a toujours, en tout cas, régulièrement depuis des dizaines d'années, expliqué que donc, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression. Ce qui ne va pas sans limitation, comme au demeurant, toutes nos libertés, tous nos droits qui sont limités par l'exercice des libertés et des droits des autres. La différence tient ici dans le raisonnement tenu par la Cour de cassation quant au que les juges doivent tenir pour apprécier le caractère fondé d'un licenciement dès lors qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression. Il y avait trois dossiers. Donc je reprends le texte de l'un des arrêts, sachant que la Cour de cassation se fonde ici donc sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, donc qui fait partie du bloc de constitutionnalité. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L121-1 du Code du travail que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, pour rappeler, donc le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La différence, c'est que par rapport à antérieurement, la Cour de cassation a le même texte, sauf qu'elle a ajouté sauf abus. Elle a enlevé le sauf abus, donc auparavant on se fondait sur la question de l'abus, donc l'abus sa liberté d'expression par le salarié, et elle ajoute un paragraphe à la place du sauf abus, enfin deux paragraphes à la place du sauf abus. Elle nous indique que désormais, donc, les juges doivent fonctionner ainsi. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts, et pour ce faire d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Et on ajoute, il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise, ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur, pour apprécier en fonction de ces différents critères si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Donc on a un contrôle de proportionnalité qui est mis en place, inspiré très certainement des modes de raisonnement et de positionnement de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc là, cette fois-ci, le juge, enfin, la Cour de cassation, met face à face, on va dire, d'une part, le droit à la liberté d'expression du salarié, et en face, le droit à l'employeur à la protection de ses intérêts. Et donc, on doit rechercher, en faisant la balance entre ces deux droits, entre ces deux intérêts, la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionnel à cet objectif. Et la Cour de cassation nous dire, il va falloir se placer dans le contexte global de ce qui a été dans lequel les propos ont été tenus. Donc on n'est plus sur une question d'abus, on est sur une question de balance entre deux intérêts d'une part et de proportionnalité entre la mesure qui a été prise et la portée, la teneur et la portée des propos litigieux ainsi que leur contexte, ce qui est au final plus précis. Puisque il faut tenir compte donc de l'impact aussi au sein de l'entreprise et les conséquences négatives causées à l'employeur, ce qui peut être différent d'un dossier à un autre. Donc auparavant, il n'y avait pas de difficulté lorsqu'on exerçait sa liberté d'expression sans abus. Désormais, on peut excuser une atteinte à cette liberté en fonction du contexte et en fonction des conséquences des propos qui ont pu être tenus. Ça marche au final dans les deux sens. En sortant de cette notion d'abus, on va partir sur une notion de proportionnalité. Quand je dis ça marche dans les deux sens, c'est pas nécessairement dans le sens de l'employeur non plus, puisqu'il faut prendre en considération le contexte. Par exemple, il y avait un arrêt dans lequel on avait un salarié qui avait remis au responsable des ressources humaines de la société dans laquelle il travaillait deux dessins. Il y en avait un dans lequel il s'était dessiné avec des larmes et il mentionnait ouvrier sérieux, travailleur, innovant, abîmé physiquement mais toujours pertinent, cherche poste désespérément. En demeurant, on voit pas trop en quoi ça pouvait bien gêner. Mais dans le second, il y avait un homme qui jetait des ouvriers dans une poubelle sur laquelle il était inscrit non recyclable. Et la personne qui était dessinée correspondait au responsable des ressources humaines qui, en tout cas, expliquait s'être reconnu. Et le salarié avait été licencié, pour cela. Et la cour d'appel avait, au demeurant, jugé que ça reposait sur une cause réelle et sérieuse, en expliquant que la capacité du salarié de s'exprimer librement sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise est limitée, trouve sa limite dans l'atteinte susceptible d'être portée à l'honneur et à la réputation d'un collègue de travail. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation va donner raison au salarié, c'est-à-dire, du coup, va casser l'arrêt de la Cour d'appel qui était favorable à l'employeur en expliquant donc que les juges étaient tenus d'examiner le contexte de remise des dessins aux responsables des ressources humaines. Et le salarié expliquait que l'on se plaçait dans une situation dans laquelle il n'y avait pas eu de réponse favorable donnée à l'aménagement de poste qu'il avait sollicité du fait de ses problèmes de santé. Et que les juges du fond devaient vérifier la portée des deux dessins et leur impact au sein de l'entreprise, compte tenu notamment de la publicité qui leur avait été donnée avant licenciement, ainsi que l'effectivité de l'atteinte à l'honneur du salarié qui se serait reconnu dans l'un des dessins, c'est-à-dire à pression vraiment concrète de la situation. Les propos tenus par le salarié pouvant être expliqués par un contexte le licenciement devant être justifié par la portée des dessins et leur impact dans l'entreprise, notamment par rapport à la publicité. Alors évidemment, s'il n'y a pas eu de publicité dans l'entreprise, donc il n'y a pas nécessairement eu de désorganisation ou de désorganisation pour l'entreprise ou d'impact au sein de l'entreprise. Donc on reste toujours sur des appréciations cas par cas tout de même, mais avec un mode de raisonnement qui est différent, qui est peut-être plus précis par donné de manière plus précisément par la Cour de cassation, et auquel il sera désormais utile de se référer. D'où l'intérêt, on le voit, de quelquefois faire appel à un professionnel pour savoir dans quelle situation on se trouve, les chances de succès d'une éventuelle contestation. Même si sur une situation comme ça, le professionnel ouvrira sans doute le parapluie, c'est-à-dire expliquera que, à son avis, au regard de la jurisprudence, on se trouve dans telle ou telle situation, mais que les juges peuvent, le cas échéant, avoir une position qui est différente. Il faut quand même bien voir que l'on reste sur des choses qui sont tout de même assez subjectives. Ensuite, deux arrêts moins récents en matière de harcèlement qui ne sont guère que des rappels, mais qui nous permettent de s'en faire un petit topo parce qu'on n'a pas le temps, mais de revenir un petit peu sur le harcèlement lui-même, tout simplement. Un arrêt du 10 décembre 2025. Et un arrêt du 14 janvier 2026, donc bon, quand je dis moins récent, ça reste tout de même très relatif. Un premier arrêt qui a l'avantage de cumuler deux points intéressants sur la question du harcèlement managérial et la violation du secret médical. Alors, on va voir là que l'employeur ne s'était trouvé gêné par rien dans ce qu'il faisait. Et un autre arrêt qui était sur la question de la preuve du harcèlement avec la nécessité d'une enquête interne ou pas, enfin l'existence d'une enquête interne ou pas, ce qui permettra de discuter un peu de caractère probant de ces enquêtes internes qui existent dans un certain nombre d'entreprises en matière de harcèlement. Alors, on rappelle quand même sur la base que la loi depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'ailleurs, interdit le harcèlement moral, comme au demeurant le harcèlement sexuel antérieurement, expliquant simplement, sans donner de véritable définition, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Donc on aura constaté qu'il y a un certain nombre de critères qui sont posés, même s'il n'y a pas de définition en soi du harcèlement, puisqu'on nous dit qu'on ne doit pas subir des agissements répétés de harcèlement moral. Bon, répété et harcèlement étant quelque peu redondant. Là, évidemment, c'est encore dans l'appréciation au cas par cas, quoi qu'il y ait des typologies qui aient été mises en place par des psychologues, de faits qui peuvent être considérés comme étant assez typiquement constitutifs de harcèlement. Factuellement, on retrouve tout un ensemble de choses qui vont, par exemple, de la multiplicité de sanctions infondées, aux insultes, ou aux comportements managériaux, ou des salariés auxquels on demande des excuses sans véritable justification, ou que l'on fait quelquefois mettre à genoux pour s'excuser. Et là, on voit qu'on atteint déjà des niveaux assez, assez importants, mais ça, je l'ai déjà vu dans des dossiers. En fait, au final, il n'y a pas vraiment de limite à ce qui peut se passer en matière de harcèlement dans l'entreprise, la difficulté étant une difficulté devant les tribunaux, une difficulté qui est à la fois une difficulté probatoire, que la loi règle, que la loi a géré en tout cas, et une difficulté peut-être un peu plus psychologique et qui nous ramène à la preuve aussi. Et le fait que le salarié à un moment risque de se trouver enfermé dans un système de fonctionnement qui est toxique et qui relève du harcèlement sans pouvoir, sans arriver après à en sortir et à retrouver l'objectivité sur ce qu'il subit. Pour le coup, c'est là qu'il est encore intéressant de se faire conseiller. On n'est pas au travail pour risquer sa peau, de quelque manière que ce soit. En conséquence de quoi, les comportements, on doit réfléchir quand même à la nature des comportements que l'on subit. Et il faut quelquefois arriver à trouver une solution pour s'en sauver. Trouver des solutions pour s'en sauver. Et quelquefois en prenant le soin d'aller consulter à l'extérieur. Alors quant au régime probatoire que j'ai évoqué, le législateur a prévu une charge de la preuve aménagée, c'est-à-dire que normalement la preuve d'un fait incombe à celui qui l'invoque. En l'occurrence, donc, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Et au vu de ces éléments, la partie défenderesse, bon, en gros l'employeur, doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Alors, par exemple, sur une multiplicité de sanctions, il faudra qu'il justifie que les faits justifiant les sanctions étaient existants et suffisants. Il y a d'autres éléments quand on insulte un salarié, quand on lui dit que son cul c'est comme du flan, exemple que j'ai déjà eu dans des dossiers, on voit mal comment l'employeur peut justifier sa décision par des éléments, par un élément objectif étranger à tout harcèlement, puisque là, on, c'est l'employeur n'a pas à s'en prendre au physique de ses salariés. Et ensuite, donc, le juge donc, examine l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, regarde si on considère que ça, laisse, enfin, si ça peut laisser supposer l'existence de harcèlement moral, et il apprécie ensuite si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitués d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs. Alors là, le problème de la preuve, même si la preuve est aménagée là, le problème de la preuve, c'est qu'il faut quand même avoir quelques éléments, et que ces quelques éléments, c'est pas toujours facile de les avoir. C'est là que se faire conseiller, ce n'est pas inutile, parce qu'on peut trouver des moyens d'obtenir des preuves, des moyens tout à fait légaux pour obtenir des preuves de ce qu'il se passe. Et on peut également donc demander des témoignages, garder des post-it, faire une liste, un petit topo, une liste quotidienne de ce qu'on a subi, même si ça en soi n'est peut-être pas totalement suffisant, mais ça donne déjà des éléments. Et puis garder les emails échangés, des messages, etc. Et donc là, en l'occurrence, on était dans le dossier de décembre 2025 sur une situation dans laquelle on avait une situation de harcèlement moral, mais à caractère managérial. La Cour de cassation, depuis une quinzaine d'années, reconnaît que peuvent caractériser en harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. On aura reconnu là la définition des conditions de harcèlement moral prévues par le texte, étant précisé que également reconnu le harcèlement moral institutionnel qui est là qui se différencie par le harcèlement managérial par le niveau auquel il est mis en place, c'est-à-dire managérial, c'est peut-être dans un service. Harcèlement moral institutionnel, on va à ce niveau trouver un niveau supérieur où le but est de mettre en place des stratégies de gestion du personnel délétères qui sont décidées par la direction dans un but de dégraisser, comme on dit, c'est-à-dire de faire partir un certain nombre de salariés sans avoir besoin de procéder à des licenciements. On l'a vu dans certaines entreprises dans lesquelles au final ce type de comportement aboutissait à des séries de suicides. Donc là, on avait en l'occurrence plusieurs salariés de la boutique, puisque c'est une vendeuse, de la boutique dans laquelle travaillait la salariée qui avait été licenciée, qui avait dénoncé auprès de la direction et durant l'enquête qui avait été menée par celle-ci, du harcèlement psychologique de la part des deux supérieurs hiérarchiques, avec des pressions pour démissionner, du chantage, un manque de respect, des insultes, et constatant de nombreux arrêts de travail. Et la Cour de cassation de considérer donc que les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérise un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement. Alors, dans cet arrêt, il y a un deuxième point qui n'est pas inintéressant, qui est la question de la violation du secret médical. Alors là, la Cour de cassation rappelle que le secret médical qui est couvert par le Code de la santé publique est institué dans l'intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations qui le concernent. Elle vise la Déclaration des droits de l'homme et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 9 du Code civil sur le droit au respect de la vie privée L'article 1121-1 du Code du travail que j'ai cité un petit peu plus tôt dans l'émission, pour indiquer que l'employeur ne peut pas contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical. Alors là, c'est quand même assez gros, parce qu'on constate dans ce dossier que l'employeur reconnaissait avoir appelé le médecin traitant et obtenu des renseignements relatifs à la pathologie dont souffrait la salariée et aux propos qu'elle avait pu tenir au cours de la consultation médicale, ce qui était quand même assez fort. Et d'une part, de la part de l'employeur qui se croit permis de pouvoir appeler le médecin pour obtenir des renseignements très clairement couverts par le secret médical, ce que quand même tout le monde sait. Et deuxièmement, de la part du médecin qui, alors lui, va parler librement à l'employeur de choses dont c'est quand même être pertinemment couvert par le secret médical. Alors, la conséquence en est que le licenciement, qui était au moins en partie fondée sur le contenu de ces informations couvertes par le secret médical, viole le droit au respect de la vie privée familiale et le licenciement est nul. Pas de chance, les conséquences d'un licenciement nul sont plus importantes, sont plus graves pour l'employeur que les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque dans le second cas, sans cause réelle et sérieuse, nous avons une barémisation qu'on aura assez critiquée. Dans le second cas, il n'y en a pas. Avec qui plus est, possibilité de réintégration ou de mort, vu le contexte, c'est pas toujours justifié et pas toujours judicieux. Le second arrêt du 14 janvier 2026 porte sur la question de l'enquête interne. On sait que régulièrement, pas systématiquement, en fait, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, une enquête interne qui est mise en place par l'employeur lorsqu'on a un salarié qui va dénoncer des faits de harcèlement. L'entreprise va mettre en place une enquête interne de nature à déterminer si oui ou non le salarié était victime de harcèlement. Enquête interne qui va suivre son cours et aboutir à des conclusions. La question qui était posée dans l'arrêt était de savoir si cette enquête est obligatoire ou pas. On ne voyait pas trop en quoi elle aurait pu être obligatoire. Donc la Cour de cassation nous confirme que elle ne l'est pas. En l'occurrence, on avait un employeur qui avait licencié un salarié parce qu'il considérait qu'il avait été auteur de faits de harcèlement, parce qu'il y avait une plainte d'une victime, une plainte auprès des services de police et un certain nombre d'attestations qui avaient été produites. La Cour d'appel avait considéré que, puisqu'il n'y avait pas eu d'enquête interne, la matérialité des faits au soutien de la faute grave du licenciement était insuffisamment établie, même si je simplifie un peu. Et la Cour de cassation répond que l'enquête interne n'est pas obligatoire. Oui, elle n'est effectivement pas obligatoire, même si l'employeur en met en place une souvent dans le cadre de l'enquête, dans le cadre d'un licenciement qu'il envisage à l'égard d'un salarié qui a été auteur de harcèlement, et dans le cadre de son obligation de prévention également. Alors, c'est l'occasion de revenir, maintenant qu'on sait que cette enquête n'est pas obligatoire, sur l'impact cette enquête. Les juges ont l'obligation d'apprécier la valeur probante de l'enquête réalisée en écartant les éventuels moyens d'enquête illicite qui ont été utilisés par l'employeur, et ils doivent évaluer l'enquête ou ce qu'il en reste s'il y a certains modes d'enquête qui ont été supprimés, qui ont été déclarés illicites et donc pas pris en considération, donc évaluer l'enquête au regard des autres éléments de preuve produits par les parties. Et si l'enquête est imparfaite, il reste libre dans leur appréciation de ce que cette enquête apporte. C'est-à-dire que si l'employeur apporte une enquête en disant « non, il n'y a pas eu de harcèlement » ou alors « oui, il y a eu un harcèlement », ce n'est pas une preuve absolue. Évidemment, c'est l'ensemble des éléments de preuve qui doit être pris en considération, l'enquête n'étant pas le seul élément à prendre en considération, et le fait qu'il n'y ait pas d'enquête n'a pas d'incidence non plus, puisqu'elle n'est pas obligatoire. Voici, je vois que l'on atteint l'heure, et donc c'est l'occasion de se souhaiter un bon week-end dès ce soir, et à bientôt. Au revoir.